Bonjour à tous. La France s'incline d'un petit point 20 à 19 face au Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Avec Jérôme Val, notre envoyé spécial au Japon, on revient sur l'élimination du 15 de France dans un instant avec un carton rouge qui a tout changé. Troisième journée de perturbation à la SNCF, mais le trafic s'améliore par endroits selon la direction. C'est le conflit sur la présence des contrôleurs dans les TER. Des cheminots risquent des sanctions pour avoir exercé leur droit de retrait. Les élections municipales à Paris, Anne Hidalgo et Rachida Dati, pas encore officiellement candidates, mais en coulisses, tout est prêt pour la bataille de mars 2020. Le casse-tête du Brexit, les ambassadeurs européens réunis à Bruxelles pour examiner un double message contradictoire de Boris Johnson, contraint de demander un report du Brexit. Le droit de suite, comme chaque dimanche dans le journal de 13h, la légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada, un an après l'entrée en vigueur de la mesure. Reportage sur place avec Nathanaël Charbonnier et réaction de notre invité, le professeur Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.
France Inter.
Et oui, la déception. La France est éliminée de la Coupe du Monde de rugby au Japon après sa défaite face au Pays de Galles 20 à 19. En ligne avec nous au Japon, Jérôme Val. Bonjour Jérôme.
Bonjour Pierre.
Jérôme, le 15 de France a fait un beau match gâché par une faute incroyable de Vaamaina avec carton rouge à la clé.
Ouais, difficile de faire plus cruel, hein, Pierre, comme scénario, cette équipe de France qui avait renoué pendant 50 minutes avec un rugby plaisant. Elle semblait robuste comme jamais on ne l'avait vu ces derniers mois. Le boulevard vers Yokohama et la demi-finale était tout tracé avec 3 essais marqués en première période, un avantage de 9 points à la pause, 19 à 10, et en face une équipe galloise déboussolée, friable. Et puis en effet, tout a changé à la 49e minute, un geste idiot du deuxième ligne Sébastien Vaamaina, un violent coup de coude dans la mâchoire d'un gallois, verdict logique, carton rouge. Le sélectionneur Jacques Brunel ne peut que constater les dégâts.
Je ne remets pas en cause le carton, je crois que les images sont claires. C'est un geste réflexe, je pense qu'il ne le voit pas, mais malgré tout, le contact avec le visage y est, donc il n'y a aucun problème sur cette décision. En quart de finale, jouer à 14 pendant une mi-temps, c'est compliqué. Et là, je veux mettre en avant la qualité de notre équipe.
Alors en infériorité numérique, oui, les Bleus ont longtemps résisté, ont longtemps fait le dos rond avant de craquer. À 6 minutes du terme, un dernier essai des Gallois qui passent devant pour un petit point. Les Bleus sont groggy sur la pelouse et mettront très longtemps encore à gare à rentrer au vestiaire. Alors souvenez-vous Pierre qu'en 2011, les Gallois avaient été battus d'un point en demi-finale avec un carton rouge. 8 ans plus tard, ce sont les Français qui sont victimes de ce scénario incroyable. Le sport parfois est vraiment cruel.
Jérôme, autre quart de finale en ce moment, Japon, Afrique du Sud, où en est-on ?
Eh bien écoutez, ça se passe du côté de Tokyo, hein, cette équipe du Japon portée par tout un pays, par toute une population qui est pour l'instant menée après 33 minutes de jeu par l'Afrique du Sud, 5 à 3.
Jérôme Val, en direct au Japon, la Coupe du Monde de rugby, c'est donc fini pour le 15 de France. Le mouvement social à la SNCF perturbe à nouveau la circulation des trains aujourd'hui pour son troisième jour. Avec un risque d'enlisement du conflit, les syndicats continuent de défendre le droit de retrait à la suite d'un accident de TER dans les Ardennes qu'un conducteur a dû gérer sans l'aide d'un contrôleur. La direction et le gouvernement dénoncent une grève sauvage. Rémi Brancato, bonjour.
Bonjour.
Rémi, on fait un point sur les perturbations, l'état du trafic à la SNCF en cette mi-journée.
Eh bien Pierre, la SNCF évoque une dynamique de reprise, même s'il reste de gros points noirs. Dans le détail, un trafic des TGV quasiment normal aujourd'hui. En revanche, pour les trains low-cost Ouigo, seuls 4 sur 10 circulent. Pour les intercités, c'est encore très perturbé. En Île-de-France, la reprise du trafic est assez nette. Les lignes B et C du RER restent fortement impactées. En région, pour les TER, c'est variable et encore très compliqué par endroit. Service normal ou presque dans les Hauts-de-France, en Alsace, en Normandie. En revanche, en Champagne-Ardenne, là où le mouvement a débuté, vous le disiez, le trafic est très perturbé. En Occitanie, même chose, aucun TER et presque aucun intercité ne circule. La SNCF a affrété d'ailleurs à Toulouse quelques bus de remplacement, une trentaine. Et puis la SNCF vient d'annoncer un retour à la normale pour demain sur les TGV, les Ouigo et les Transiliens. En région parisienne, elle assure avoir des remontées de terrain sur les intentions de reprise du travail, sans pouvoir donner plus de précisions pour l'instant.
Merci Rémi Brancato. Pour l'instant, on ne voit pas d'issue à ce conflit. Les syndicats reprochent à la direction de la SNCF de ne pas faire d'avancée, voire de jouer le pourrissement. Maxime Debs, bonjour.
Bonjour.
Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, n'exclut pas des sanctions individuelles contre les cheminots qui ont exercé leur droit de retrait.
Oui, le secrétaire d'État au transport qui a repris ce matin sur BFM à son compte les mots d'Édouard Philippe-Hierre en Gare de l'Est. Le Premier ministre qui avait qualifié donc de grève sauvage le mouvement entamé par les cheminots vendredi, parlant d'un droit de retrait détourné de son usage.
Je crois qu'il a eu raison de donner notre appréciation politique de la situation. Notre appréciation politique, c'est que ce droit de retrait a été détourné de sa vocation initiale. Et je le redis, vous avez entre un tiers et 50% des personnes grévistes qui n'étaient pas directement impactées par le trafic TER et pour lesquelles un danger grave ou imminent n'était pas de fait observable. Donc je pense que cela est très clair. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas inspecteur du travail. Le juge jugera le cas échéant, mais je vous donne mon appréciation politique et de bon sens, je crois, et je crois que les Français peuvent le comprendre.
Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, qui affirme que des discussions continues ont lieu depuis vendredi avec les syndicats, discussions qui vont dans le sens d'un accord selon lui. Interrogé sur ce point, les syndicats de leur côté assurent que, pas du tout, qu'il n'y a aucun dialogue engagé ou à peine 2-3 mots échangés. Le temps du week-end rend les choses un peu plus difficiles, veut croire un représentant cheminot à la direction de la SNCF. On indique simplement, sans en dire davantage, que la concertation n'est pas terminé.
Maxime Debs, le feuilleton interminable du Brexit à 11 jours de la date butoir de ce Brexit, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est sous pression pour sortir de la confusion. À l'issue d'un vote hier à la Chambre des communes à Londres, il a l'obligation légale d'écrire à l'Union européenne pour lui demander un report du divorce, tout en martelant son hostilité à cette démarche et son souhait d'un maintien du calendrier prévu. Alors face à ce blocage, les ambassadeurs des 27 étaient réunis ce matin à Bruxelles autour du négociateur européen du Brexit, Michel Barnier. Johanna Hochstein est en direct avec nous dans la capitale belge. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Que peut faire l'Europe maintenant ?
Écoutez, ce matin, les ambassadeurs ont décidé de continuer le processus de ratification de l'accord de divorce, presque comme si de rien n'était. Le texte n'a pas été rejeté hier par les députés britanniques, rappelle un diplomate de haut rang. Son vote a juste été reporté, nuance. Il faut donc être prêt pour une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre. Les différents documents vont donc être envoyés au Parlement européen, qui se réunira la semaine prochaine à Strasbourg pour ratification. Aux eurodéputés maintenant de choisir quand ils se prononceront sur le nouvel accord. Ils ont toujours dit qu'ils attendraient que Westminster le valide en premier. Les 27 qui n'ont donc pas examiné la demande de report envoyée hier soir, puisqu'elle n'a pas lieu d'être pour le moment, explique-t-on ici. En cas de rejet de l'accord, alors là oui, les chefs d'État et de gouvernement en débattront, certainement lors d'un sommet extraordinaire. En fait, les Européens veulent garder espoir et continue de croire que Boris Johnson parviendra à faire adopter son texte la semaine prochaine dans les délais impartis, comme il s'y est engagé.
Johanna Hochstein en direct à Bruxelles. Les élections municipales à Paris à 5 mois du scrutin, le Parti Socialiste et les Républicains se retrouvent dans des schémas similaires. Chacun dispose d'une candidate, mais ni l'une ni l'autre ne s'est officiellement déclarée. Anne Hidalgo, la maire PS sortante de la capitale, doit entrer en campagne fin la fin de l'année ou début 2020. Et puis Cécilia Arbona, à droite, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, est déjà active sur le terrain.
C'est une date qu'elle n'a pas oubliée. Le 23 avril 2013, Rachida Dati retire sa candidature pour la mairie de Paris. Elle laisse le champ libre à sa rivale, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a reçu l'investiture de l'UMP pour l'élection de 2014. Mais cette fois, pas question de renoncer. L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy ne s'effacera pour personne. Agnès Evren, présidente de la Fédération parisienne du parti.
Il faut d'abord que nous ayons un candidat qui soit officiellement choisi par la commission d'investiture. Il y a des procédures à respecter. Madame Dati, elle a beaucoup de punch, elle a de la notoriété et je pense qu'à Paris, on a besoin d'une personnalité qui ait une dimension nationale.
Face à l'hyperactive Rachida Dati, la maire socialiste sortante de Paris n'est pas pressée de se déclarer, mais autour d'elle, tout est prêt. Emmanuel Grégoire, premier adjoint, distribue des tracts avec la photo d'Anne Hidalgo.
Parce que nul n'est dupe sur, notre stratégie politique. Il n'y a pas de candidature cachée, etc. Chacun sait très bien que je souhaite souhaite qu'elle soit candidate, mais elle le sera quand elle le souhaitera, et surtout quand elle aura fini d'abord son travail pour les Parisiens.
Et Anne Hidalgo peut s'appuyer sur un micro-parti créé justement pour faciliter sa réélection et baptisé Paris en commun.
La préparation des municipales à Paris, reportage Cécilia Arbona, et puis les élections municipales à Lyon. Sur France Info ce matin, Gérard Collomb, le maire sortant, a raconté les coulisses de son investiture par La République En Marche. Lors d'une conversation le 10 octobre à Lyon, Emmanuel Macron m'a dit « Oui, je veux que tu sois candidat ». Voilà à propos de Gérard Collomb. Et toujours sur France Info, il est revenu sur le dossier de la laïcité et du voile après l'incident entre un élu Rassemblement National et une mère de famille voilée au Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté. Gérard Collomb n'est pas favorable à une nouvelle loi sur le voile. Il est interrogé par Jérôme Bertolus.
Ce voile peut se porter de manière extrêmement différente entre le voile que vont porter par exemple un certain nombre de mamies maghrébines et puis la burqa. Il y a quand même une différence fondamentale. Moi je pense que c'est plus par la pratique, par la connaissance que par, si vous voulez, l'imposition de nouvelles lois d'ailleurs qu'on ne ferait appliquer qu'avec difficulté, parce qu'aujourd'hui en France la tentation c'est de faire toujours de nouvelles lois, de les empiler, puis après dans leur application c'est plus difficile.
Est-ce que on voit que la majorité est un peu sans dessous dessus, on voit qu'il y a un débat dans le pays, est-ce que le président de la République doit aujourd'hui publiquement s'exprimer sur la laïcité, tracer en quelque sorte les lignes de force?
On voit bien que il y a toujours des sons divers qui s'expriment, et celui qui donne le « là », in fine,
donc,
c'est
doit
toujours
le
président
donc,
de la République.
Donc il doit s'exprimer.
Donc effectivement qu'il doit s'exprimer.
Le droit de suite, comme chaque dimanche dans le journal de 13h, élection législative au Canada demain. Justin Trudeau, le Premier ministre sortant, n'est pas certain d'obtenir sa réélection portée au pouvoir en 2015. Une des mesures phares de son mandat, c'est la légalisation du cannabis à des fins récréatives. C'était il y a un an, le 17 octobre. Le cannabis reste cependant un problème de société au Canada. Des boutiques officielles permettent d'acheter tous les dérivés de la célèbre plante hallucinogène, recul du marché noir, hausse de la consommation, baisse des prix. Le pari du gouvernement Justin Trudeau a réussi en partie, mais il n'évite pas de poser encore des questions. Au Québec, reportage Nathanaël Charbonnier.
Nous sommes au 68-72 rue Saint-André dans le cœur de Montréal, à la SQDC, la Société québécoise de cannabis.
C'est un joint de 0,5 g, il est à 29% d'intensité.
Pièce d'identité en main pour justifier de sa majorité, vous débouchez alors dans un magasin aseptisé où les caisses enregistreuses rythment les passages des clients.
Aujourd'hui, j'ai acheté 3,5 d'indica plus des capsules.
C'est quoi un 3,5? Ça veut dire quoi?
3,5, c'est 3,5 grammes.
Et ça vous coûte combien?
Ça m'a coûté 130 $ pour 3,5 plus 30 capsules.
Joint, huile, petites gélules blanches, herbes, tous les conditionnements possibles sont proposés. Les fils ne désemplissent pas, on parle d'une hausse de la consommation de 20 à 30%. Il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts, mais aussi tous les prix. Le marché noir existe toujours, mais il n'est pas forcément intéressant, comme l'explique Aslan.
Pas forcément, ça dépend du produit, de la qualité, je vous dirais, mais je pouvais avoir dans le marché noir des produits qui sont beaucoup plus chers qu'ici, dépendamment de la qualité.
Le hashish, un produit comme les autres, une drogue comme les autres, le débat n'est pas aussi simple, y compris chez les consommateurs, qui ne sont pas forcément dupes comme Hélène.
C'est comme l'alcool, c'est comme la cigarette, c'est comme le sucre. Dans le fond, on peut devenir dépendant de n'importe quelle substance.
Il n'y a pas eu d'apocalypse.
Voici Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l'Université de Montréal et spécialiste des drogues et dépendances. Pour lui, il est trop tôt pour dresser un bilan. La légalisation a encore besoin de 4 à 5 ans pour être analysée, mais elle a changé des choses.
Une incidence que je vois qui est observable, c'est que les gens maintenant se cachent moins, en parlent davantage, il y a plus d'éducation, il y a plus d'argent dans la recherche.
La légalisation, un succès, bémol, car tout n'est pas réglé. Le cannabis reste une drogue dangereuse pour les adolescents en pleine croissance, si bien qu'au Québec, il est envisagé de relever à 21 ans l'âge légal pour en acheter. Le débat court toujours. À Montréal, Frédéric Kérou, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
En ligne avec nous au téléphone, le professeur Amin Benyamina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Que pensez-vous de cette légalisation du cannabis récréatif au Canada, mais qui existe aussi en Uruguay?
Mais je pense d'abord, pour ce qui est du Canada, on a affaire à un chef d'État qui a tenu ses promesses électorales, parce que ça faisait partie des promesses qui avaient été les siennes. Et c'est très clairement l'exemple de ce qu'on appelle une politique pragmatique de réduction des risques. Justin Trudeau et les Canadiens n'ont pas légalisé le cannabis pour faire des Canadiens un peuple consommateur de drogue ou de cannabis. L'idée est d'endiguer d'une manière ou d'une autre le trafic, de pouvoir avoir une vision mesure de l'importance et de la prévalence des consommateurs et de corriger, comme l'a dit mon confrère, petit à petit, les effets de la légalisation. L'intersolution, c'est le statut que l'on connaît en France, à la pure mesure, c'est-à-dire une augmentation importante qui touche les jeunes d'un cannabis dont on connaît ni le contenu ni la teneur, tenue totalement par des trafiquants, avec une loi très prohibitionniste et qui n'a aucun effet ni sur la santé ni sur l'économie.
Bien sûr, là on parle des problèmes policiers, le trafic de cannabis, comment lutter contre cela, mais d'un point de vue médical. Vous, professeur Amine Benia Amina, fumer une cigarette ou du cannabis, c'est la même chose ?
Fumer une cigarette ou cannabis, ce n'est pas la même chose. Fumer une cigarette, on sait très bien avec du recul que la cigarette, le tabac, est responsable d'une foultitude de maladies, notamment des cancers, indirectement. Pour ce qui est du cannabis, les problématiques sont différentes, elles existent, elles touchent essentiellement ce qu'on appelle...
On a des problèmes de ligne, oui, professeur bon, Amine Benyamina. Bon. Si vous pouviez vous déplacer un peu, votre téléphone ne passe pas très bien. C'est un portable, j'ai l'impression.
Oui, non, c'est bon. Elles touchent essentiellement les adolescents. Ces adolescents, quand ils consomment du cannabis jeune, ont des problèmes au niveau des
consommateurs. Oh là là, la ligne est vraiment, n'est vraiment pas bonne. On ne vous entend pas très très bien. Est-ce que pour vous, fumer du cannabis, c'est la porte ouverte à l'envie d'utiliser d'autres drogues automatiquement ?
Non, ce n'est pas la porte ouverte pour la consommation d'autres drogues. Le cannabis a social ou bien d'initiation adolescente, mais ça n'ouvre pas forcément la consommation à d'autres drogues. Ce qui est certain, c'est qu'on a affaire à des typologies de consommateurs actuellement. Les jeunes ne consomment pas que du cannabis, ils consomment beaucoup d'alcool, ils consomment également ce qu'on appelle des psychotropes, des médicaments qu'ils utilisent, qu'ils détournent notamment dans leur soirée. Donc l'idée, ce n'est pas de se concentrer simplement sur le cannabis, mais sur la problématique de la consommation des drogues dans l'adolescence. Et c'est ça le gros débat que l'on devrait ouvrir en France.
Merci professeur Amine Benyamina, je rappelle, chef du département de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. La dernière page de ce journal, les élections générales en Bolivie. Aujourd'hui, le pays vote pour élire ses parlementaires et son nouveau président. Les indécis sont encore nombreux, le scrutin est toujours incertain et le panorama politique du pays pourrait changer. Après 13 ans au pouvoir, Evo Morales, le premier président amérindien et de gauche en Bolivie, va-t-il l'emporter ? Pas sûr. De nombreux Boliviens sont déçus par la corruption et le virage autoritaire du pouvoir. Reportage à La Paz, Alice Campagnol.
Jour de vote incertain en Bolivie. Pour la première fois en plus d'une décennie, Evo Morales, l'actuel président, n'est pas sûr de l'emporter au premier tour. Alors qu'il gagnait jusqu'ici avec des scores étourdissants jusqu'à 64% des suffrages, aujourd'hui les sondages l'annoncent certes en première position, mais avec seulement, si l'on peut dire, 36% des voix. La raison de cette baisse de popularité, un ras-le-bol chez une partie des citoyens, notamment chez les jeunes, comme Gabriela.
J'ai déjà voté pour Evo. Pour cette idée de changement qu'il prenait parce que son parti était nouveau. C'était un vote plein d'espoir. Mais après, je n'ai plus voté pour lui parce qu'il faut être aveugle pour ne pas voir toute la corruption.
Si les Boliviens en ont assez, c'est aussi à cause du non-respect des règles démocratiques. Le président se présente aux élections alors que les Boliviens lui avaient dit non en 2016 lors d'un référendum. Des manœuvres lui ont permis de se présenter malgré tout, mais ça ne passe pas. Selon les résultats du vote aujourd'hui, l'ambiance pourrait bien se dégrader dans le pays. Des citoyens de l'opposition ont déjà annoncé qu'ils refuseraient de reconnaître Evo Morales comme président si celui-ci venait encore une fois à gagner. La Paz, Alice Campagnol, France Inter.
À l'étranger encore, les quelques 1000 soldats américains se retirant du nord de la Syrie devraient rejoindre l'ouest de l'Irak pour continuer de lutter contre les combattants du groupe État islamique et aider à défendre le pays. C'est ce qu'a annoncé le chef du Pentagone, le secrétaire américain à la défense, Mark Esper. Donald Trump, lui, il renonce à son projet extrêmement critiqué d'organiser un sommet du G7 l'année prochaine dans une de ses propriétés, un golf à Miami. Il a publié un texte sur Twitter, texte incendiaire, évidemment, du fait à la fois des médias et de l'hostilité irrationnelle de dingue des démocrates, nous n'envisagerons plus ce site à Miami. Nous entamerons, dit Donald Trump, la recherche d'un autre site, y compris éventuellement à Camp David. C'est la fin de ce journal.